Le train de Noël en marche. En ce début décembre 1892, Miss Perry avait, pour la deuxième fois, fait alliance avec le diable, ou presque, avec un de ses associés en tout cas. Mais le jeu en valait la chandelle. Dut-elle brûler en enfer pour l'éternité ? Elle avait cédé sur l'insistance de Fergus MacDonald, son inflexible intendant au sens des affaires affûtées. En son fort intérieur, la directrice de l'orphelinat modèle de Whitechapel frissonnait encore de scrupules. Mais une nouvelle fois, tout comme l'année précédente, Anne Perry se trouvait acculée à l'approche des fêtes de Noël. Elle avait toujours essayé de les rendre merveilleuses pour ses enfants perdus. Encore une fois, elle n'avait plus d'autre solution que de vaincre le mal par le mal. À son côté, Fergus MacDonald n'avait pas bronché, comme d'habitude. Le propriétaire de la grande maison abritant l'orphelinat était mort brutalement, quelques semaines auparavant. Misant sur l'abnégation quasi irrationnelle de Miss Perry, les héritiers du vieux bonhomme avaient décidé de vendre la bâtisse à un prix frôlant l'extorsion. Racheter ou être expulsé, voilà les deux seules alternatives. Bien sûr, Miss Perry n'avait pas hésité, mais elle manquait de moyens. C'est Fergus, l'économe, le gestionnaire et le commercial, l'écossais quoi, qui avait dégoté la solution, façon miracle de Noël. Il avait décroché un marché en or. Plisser et coudre tous les kilts de Noël de ces messieurs de la Société des Highlanders exilés à Londres. Pour une somme défiant l'entendement, vu la réputation de dur à la dépense des clients. Fergus MacDonald avait aussi trouvé les laits de tartan nécessaires dans une filature perdue des Highlands à un prix glaçant toute concurrence. Il avait âprement négocié avec un sien cousin du même patronyme. Fergus portait d'ailleurs le même nom et prénom que son père et que son grand-père avant lui, et que son bisaïeul, et ainsi de suite, sur 30 générations au moins. Au point que, dans les abrupts Highlands superstitieux, on murmurait qu'un même immortel hantait les bruyères améthystes des Landes de Calédonie avant même l'arrivée de la Croix. Une histoire à perdre la tête, une autre. Il fallait encore rapatrier les piles de tartan très rapidement et à moindre coût, depuis les Highlands vers Whitechapel. Leur seul contact à posséder leur propre flotte privée sur les rails britanniques, c'était les acolytes de l'homme sans regard. Mais les nombreux lourds rouleaux de lainage n'auraient pas suffi à éveiller la bienveillance des vieilles têtes à long chapeau. Fergus leur avait alors proposé une vente aguichante. Pour un bon prix, il leur cédait de vieilles reliques ésotériques des Templiers réfugiés en Écosse, conservées dans sa famille depuis le milieu du XIVe siècle. Convoyés avec les piles de tartan, ces artefacts supposés maudits et magiques attisaient la convoitise mystique de plusieurs sociétés secrètes londoniennes. La plus bienveillante étant la célèbre Golden Dawn, dont Constance Wilde avait souvent parlé à Miss Perry. Mais d'autres sectes, aux méthodes plus ténébreuses, guignaient avidement sur ces maudites reliques. Fergus les avait d'ailleurs gardées avec lui, dans deux grands sacs de toile ordinaire. Pour l'instant, tout roulait comme sur du velours. Si tant est que le velours puisse avoir un roulement éraillé et répétitif de ferraille lancée à grande vitesse et à vapeur. Le train qui les ramenait d'Édimbourg à Londres ronronnait fort mais régulièrement, illuminant de son long corps coruscant l'obscure nuit constellée de flocons blancs. C'était un train étrange, tout rouge, rutilant. Il ne comportait que deux voitures passagers, déjà décorées aux gui, boules et guirlandes de Noël. Une avec des fauteuils très confortables, mais non chauffés. La seconde offrait une coquette voiture-restaurant tiède aux passagers de ce long périple glacial. Tout le reste de la chenille sur rail se composait d'imposants wagons de marchandises soigneusement cadenassés. C'était un train privé, donc, affrété par des hommes d'affaires très discrets pour transporter du fret trop précieux pour des trains réguliers. Anne Perry avait bien compris que les intérêts affûtés des vieilles têtes à long chapeau faisaient d'une chaudière surchauffée deux coups. Ils transportaient les marchandises d'un autre passager, un inconnu, très aluré. Fier et droit, il portait une belle cinquantaine, fringante, blanchie prématurément d'épais cheveux ras et d'une barbe mi-longue, taillée à la Zeus. Ses très élégants vêtements affichaient une très belle qualité. Son long manteau de feutre épais et son pantalon de lainage étaient rouges. Dessous, sur une chemise aussi blanche que sa barbe, l'inconnu au charme délétère se cintrait dans une veste de tartan vert et rouge, au liseré aussi doré que le quadrillage du tissu. Anne Perry avait tout de suite remarqué qu'il s'affichait aux couleurs de Noël, encore soulignées par l'étrange cravate, de la même étoffe que la veste. Sur le quai, il les avait très courtoisement salués dans un anglais rugueux d'accent nordique. Mais il ne s'était pas présenté formellement. Il avait directement filé dans la voiture restaurant et s'était fait servir un grog embaumant miel, rhum et citron. Il avait été rejoint par un compagnon qu'Anne Perry ne connaissait que trop bien, puisqu'il était l'associé de l'homme sans regard. C'était un Irlandais, toujours coiffé d'un haut de forme excentrique, en cuir noir et à lacets parfaitement muets. Détail le plus incongru des deux pour un Irlandais. Avant même qu'il commande, la barmaid en classieux uniforme rouge et or, estampillé au col et revers d'un macabre insigne, d'un crâne grimaçant flambant sous un long chapeau de ténèbres, l'avait servi. Car c'était bien une femme qui œuvrait ici, à la grande surprise de Miss Perry. Surprise plus aiguë encore, la belle et pulpeuse rousse, choucroutée en chignon pléthorique, portait un pantalon, comme un homme. Cette audace relevait quasiment de l'hérésie. Qu'un homme y ait pensé, surtout si c'était ce maudit homme sans regard, passe encore. Mais qu'une femme ait accepté, sans doute une Irlandaise, elle aussi, jugea Miss Perry. L'incendiaire barmaid culotté comme un steward vint poser devant le muet une belle pinte d'une bière noire et épaisse. Une bière de travailleur de force, pauvre, qui se remplit la panse de malt d'orge tant il gagne si peu de pain. Miss Perry et MacDonald avaient rapidement rejoint les autres convives, tant l'autre voiture était froide et bruyante. Avant qu'ils n'aient commandé eux-mêmes, la barmaid servit à Miss Perry une grosse théière de porcelaine chinoise blanche et bleue, d'un délicieux Earl Grey raffiné, accompagné de scones écossais au gingembre et de petits cakes de Noël aux fruits confits macérés au rhum absolument délicieux. Elle avait déposé devant Fergus un liquide ambré dans un verre de cristal épais. L'Écossais huma le breuvage et sourit, un brin d'étonnement pétillant dans ses yeux. Miss Perry comprit qu'on lui avait servi un de ces alcools dont les seules âpres tourbes calédoniennes ont le secret. Malheureusement, comme ils le craignaient tous, le train, pourtant parti sur une belle lancée sans arrêt jusqu'à Saint-Pancras, freina brusquement jusqu'à s'arrêter en plein No Man's Land, en plein sur un haut pont transversant un abîme abrupt. Miss Perry pâlit et un léger tremblement la gagna malgré elle. L'homme de Frima, en rouge, souleva un sourcil interrogateur en direction de l'Irlandais, hautement chapeauté, qui avait fermé les yeux et souriait en biais, comme un mauvais augure. Fergus se leva et allongea sa longue carcasse rapace jusqu'à une des fenêtres dont il tira le rideau. Damn it, nous sommes stoppés sur le pont au-dessus du gouffre d'Helm's Cottage. Des hommes montent par la locomotive. Ils viennent de jeter deux des trois mécanos dans le gouffre. Miss Perry ne put retenir un hoquet d'horreur. Le nordique en rouge souffla de colère et s'adressa avec son accent rugueux à l'Irlandais muet qui avait toujours les yeux fermés.
Par Watan, je ne pense pas que l'on attaque un train pour mes babioles. Elles n'ont de valeur que pour ceux qui en rêvent et les ont commandées. Et les Krampus sont bien loin de ces terres ignorées de Saint-Nicolas. M'auriez-vous caché quelque chose, grand silence ?
Ses yeux toujours fermés, le grand silence leva un doigt qui intimait le silence, apparemment. Le plaignant se renfrogna en grommelant dans un dialecte rogomeux peu amène. Mais il sourit lorsque la barmaid lui amena un nouveau grog dans un verre qui faisait le double du précédent. La polémique n'eut pas l'occasion de rebondir après cet apaisement éthylique. Soudain, les portes des deux côtés du wagon-restaurant volèrent en éclats. Elles libérèrent les ruées de deux hordes de malandrins virulents, armés de barres de fer et de lames acérées comme des patins à glace. L'un d'eux brandissait une énorme clé à molette et portait la salopette et la casquette des mécanos de locaux. Le traître était identifié et le convoi ne bougerait plus. Les assaillants investirent le wagon en se répartissant en un demi-cercle, tournant ostensiblement le dos au comptoir et à la barmaid, malgré quelques regards graveleux. Il y eut de leur côté un instant de flottement quand ils s'aperçurent que leur assaut ne suscitait aucune émotion apparente. Aucun des passagers pris en otage n'avait cillé. L'un d'entre eux finit par hurler.
« Filez-nous le trésor des Templiers, vite, ou on vous étripe tous !»
Le grand silence se leva lentement et vint se camper au centre exact du demi-cercle, tourné vers l'avant du train. Fergus se leva tout aussi placidement et vint se camper exactement dans son dos. Les deux alliés présentaient ainsi une figure inédite, digne d'un tarot occulte et gaélique mystique. Un Highlander qui ne devait pas perdre la tête dos à dos avec un Irlandais qui l'avait déjà perdu depuis longtemps. Si tant est que ce soit par un pléonasme depuis l'aube des temps. Il se produisit alors quelque chose d'inattendu qui stupéfia presque tous les protagonistes. Lentement, très lentement d'abord, le train se remit en marche. Les assaillants s'interrogèrent du regard, mais aucune réponse ne vint. Seul Fergus cracha bas entre ses dents.
« Par Saint-Georges, il contrôle la machine !»
Anne Perry comprit qu'il parlait du muet lorsqu'un sourire déraisonnable s'agrandit sur la face lunaire du grand silence, qui incarnait soudain un chapelier fou, maître du rail par la force de l'esprit. Déstabilisés par ce départ imprévu, et alors qu'ils ne savaient même pas où étaient cachés les objets qu'ils étaient venus rasier, les assaillants perdirent leur sang-froid et se jetèrent à l'assaut des deux hommes, commettant ainsi leur première erreur. Seuls le Nordique écarlate et Miss Perry virent alors la barmaid leste sauter par-dessus le comptoir et les attaquer dans le dos en brandissant deux longues dagues orientales redoutables. Du fût de leur canne, l'Irlandais et l'Écossais avaient dégainé de vieilles lames avides aussi piquantes que tranchantes et ils déployèrent leur art de bretteur dans un ensemble bicéphale aussi superbe que meurtrier. La barmaid ne leur cédait en rien, flamme rousse désinvolte et fatale. Elle esquissait un véritable balai de deuil dans cette mauvaise brochette de criminels vicieux. L'affaire fut finalement vite entendue. Si l'on peut ainsi résumer un carnage de grands malades mis en scène par un muet et chorégraphié par une rousse en pantalon. Les trois spadassins fatidiques finirent par traîner dans le wagon suivant les cadavres. Puis la barmaid retourna derrière son comptoir afin de préparer une nouvelle tournée avec friandises, tandis que le grand silence disparaissait vers l'avant du convoi. Sans doute pour piloter la locomotive qui ne tarderait plus à rentrer en gare. Au milieu de son troisième grog, le flématique nordique en rouge finit par lancer à l'attention des deux autres passagers avec un ton suintant.
« Finalement, à cette époque de l'année, je préfère les histoires pour enfants, même si c'est celle de ce Scrooge. »
Miss Perry avait choisi d'occulter tout ce qui s'était passé dans le train. Surtout en ce 25 décembre où son orphelinat, puisque c'était bien le sien jusque dans les murs qu'elle possédait désormais, fêtait Noël comme jamais. La société des vieilles têtes à long chapeau avait tenu à prendre à sa charge le repas de la journée. Les tables croulaient sous les meilleures dindes, les meilleurs marrons, les puddings les plus parfumés et les thés les plus raffinés. Sans oublier quelques flasques anciennes de précieux vins doux. Fergus affirma à Miss Perry qu'il fallait y voir une générosité de l'Irlandais muet, toujours sensible aux enfants. L'homme sans regard n'avait rien à y voir. D'ailleurs, Grand Silence avait passé une partie de l'après-midi à régaler le jeune public, mais aussi les plus grands, d'ombres chinoises envoûtantes et de pantomimes merveilleuses. Aidé par d'étranges nains renfrognés, tout aussi vêtus de rouge que lui, l'élégant quinquagénaire nordique arriva juste avant les agapes avec une montagne de cadeaux, jeux et jouets à distribuer aux petits démunis si chanceux. Il prétendit se dénommer Klaus. Anne Perry ne put s'empêcher de lui demander.
Vous êtes le père ?
Non. Je ne suis que son neveu. Je m'occupe juste d'une partie des livraisons.
Un épisode de Noël en hommage à Anne Perry, 1938-2023. Dans la poussière qui retourne à la poussière, elle continue de briller des mille éclats de Noël qu'elle a dispensés, tous les ans, aux lecteurs impatients de ses enquêtes, sans trêve pour les confiseurs d'énigmes. Merci.
C'était Le train de Noël en marche. Un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit par Georges Fauveau. Narré et mis en son par Vincent Corlet. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.